VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est midi à Kinshasa. Bonjour à tous. L'opposant malawite Lazarus Chakwera, arrivé deuxième de la présidentielle au Malawi, a annoncé aujourd'hui rejeter les résultats frauduleux de l'élection remportée par le chef de l'État sortant, Peter Mutharika. Lazarus Chakwera a fait savoir lors d'une conférence de presse à Lilongwe, la capitale, qu'il allait demander à la justice d'annuler les résultats de la présidentielle du 21 mai. Le président Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014, a obtenu 38,57% des suffrages devant son principal rival, avec 35,41% des voix selon les résultats de la commission électorale. Moins de 160 000 voix séparent les deux hommes. Jour de funérailles en République démocratique du Congo, la dépouille de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles le 1er février 2017, a été finalement ramenée hier à Kinshasa. Irénée Hermanoumbo nous fait le point.
Son fils et actuel président Félix Tshisekedi menait la délégation hier nuit à l'aéroport international de Ndjili. Un corbillard aux couleurs de la RDC a amené la dépouille à la morgue. Plusieurs milliers de personnes ont attendu le passage du cortège sur le grand boulevard menant de l'aéroport au centre-ville. Le cercueil sera exposé aujourd'hui au stade des Martyrs et Étienne Tshisekedi sera inhumé demain dans un mausolée de Nzélé dans la banlieue de Kinshasa. Né en 1930, il est décédé le 1er février 2017 à Bruxelles. Il a d'abord été un proche du dictateur Mobutu Sese Seko à l'indépendance de l'ex-colonie belge en 1960, puis est passé dans l'opposition et a fondé dans la clandestinité l'UDPS en 1982. Le sphinx de Limété, du nom de sa commune, a été brièvement premier ministre après la conférence nationale des années 90. Il est repassé dans l'opposition sous le régime de Laurent-Désiré Kabila et s'est opposé aussi à Joseph Kabila. C'est pour cela qu'on le surnomme l'opposant historique congolais.
Le gouvernement du président sud-soudanais Salva Kiir a dénoncé aujourd'hui la prolongation d'un an de l'embargo sur les armes contre le Soudan du Sud, voté la veille par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qualifiant cette décision des mesures contre la paix. Tout ceci est fait dans le but d'affaiblir le gouvernement pour qu'il soit renversé par l'opposition, a déclaré le ministre sud-soudanais de l'information Michael Makuei. Jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté par 10 voix pour et 5 abstentions une résolution prolongeant jusqu'au 31 mai 2020 l'embargo sur les armes ainsi que le gel des avoirs et l'interdiction de voyager de 8 responsables sud-soudanais accusés d'avoir joué un rôle dans la guerre civile qui ravage le plus jeune pays du monde depuis 2013. Le Soudan voisin a ordonné la fermeture du bureau de la chaîne d'information qatari Al Jazeera à Khartoum. C'est ce qu'a annoncé jeudi le groupe alors que des milliers de personnes ont protesté dans la capitale soudanaise contre l'absence d'avancée dans les négociations avec les militaires qui refusent de céder le pouvoir aux civils. La décision inclut également le retrait des permis de travail pour les correspondants et le personnel du réseau d'Al Jazeera à compter de jeudi soir, a ajouté la chaîne qui diffuse régulièrement des images des manifestations contre l'armée qui secoue le Soudan. Al Jazeera dénonce une totale violation de la liberté de la presse et a su continuer la couverture au Soudan en dépit de l'ingérence politique des autorités soudanaises. Les femmes sont très peu visibles dans les médias, notamment audiovisuels en Afrique francophone. Les experts, les présentateurs et journalistes vedettes sont majoritairement des hommes, selon une enquête rendue publique lors d'un salon professionnel à Abidjan. Le point avec Lou Ndiaye.
L'enquête, à laquelle ont participé une centaine d'acteurs et d'actrices de l'audiovisuel, indique qu'il y a moins de 30% de femmes expertes invitées dans les médias. A détaillé hier Séverine Laurent, directrice de l'agent de communication AfricaCom, lors de la 6e édition de Discop qui se termine aujourd'hui à Abidjan. Une quinzaine de questions ont été envoyées à plus de 750 personnalités des médias. 107 personnes, dont 71% de femmes, ont répondu qu'il y a moins 30% de femmes journalistes ou animatrices vedettes dans les émissions ou les articles publiés par leurs médias. Ces médias font très peu appel à des femmes expertes. Et quand c'est le cas, on nous invite pour parler de maquillage, de coiffure, de mode, a regretté Séverine Laurent, pointant des facteurs éducatifs et socioculturels. Le Discop organisera différentes journées consacrées aux femmes dans les médias dans le courant de l'année, notamment à Kinshasa, Brazzaville et à Dakar.
En Algérie, la police a procédé aujourd'hui à des arrestations systématiques de passants à Alger, aux abords de la Grande Poste, point de ralliement de la grande manifestation hebdomadaire contre le régime prévue en début d'après-midi. Seules les personnes âgées et les femmes avec des enfants semblent passer entre les mailles du filet. Depuis le 22 février, les Algériens sortent chaque vendredi massivement dans les rues, notamment à Alger, pour réclamer un changement du système politique dans le pays. À Washington, il est 7h05.
Nos infos sur voaafrique.com.
Et nous émettons du studio 1740D de la Voix de l'Amérique. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a adressé jeudi une lettre à son homologue américain l'invitant au dialogue après que Donald Trump a annoncé des taxes douanières contre le Mexique accusé de laxisme sur le dossier de l'immigration. Je vous informe que je ne veux pas la confrontation. Je propose d'approfondir le dialogue, de rechercher des alternatives au problème de l'immigration, écrit le président López Obrador. En Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou a essuyé un revers cinglant jeudi en échouant dans ses efforts pour former une coalition de gouvernement. Bibi, comme il est surnommé, a préféré provoquer de nouvelles élections quelques mois à peine après le précédent scrutin. Pour en savoir davantage, Claire Morin-Gibou a joint l'ancien journaliste et écrivain Marius Schachtner.
Pour moi, une surprise totale. C'est le pays est ahuri. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. On a eu des élections, la droite l'a emporté assez confortablement. Ce n'est pas une victoire écrasante. Tout le monde était convaincu qu'au bout de quelques jours, peut-être quelques semaines, Netanyahou formerait un gouvernement. Et là, c'est l'échec retentissant. Et non seulement l'échec, ce sont de nouvelles élections. C'est quelque chose d'inimaginable.
Comment expliquez-vous qu'on en soit arrivé là ?
C'est un mélange. D'abord, ce sont les affaires qui sont autour de Netanyahou, de sorte que Netanyahou est complètement obnubilé par sa bataille pour se préserver de la justice. Dans ce contexte-là, il a accepté les pressions de tous les petits partis, en particulier les partis orthodoxes, mais également de Lieberman, à un moment donné, pour obtenir une chose qui était essentielle à ses yeux, c'est-à-dire c'est de s'assurer une immunité parlementaire, ce qui est très douteux, et surtout de faire passer une loi qui permettrait de contourner la Cour suprême et qui aurait été, si elle était passée, une atteinte très très dure au système démocratique israélien. Puis d'autre part, ce sont des contradictions de la droite extrême en Israël. Déjà dans le passé, la droite extrême a fait tomber deux gouvernements, mais là on a affaire à une espèce de haine personnelle avec un personnage comme Lieberman, qui est un personnage très dur, très très brutal, qui a été poursuivi d'ailleurs dans le passé pour des affaires de corruption. Il s'en est sorti uniquement par la prescription.
Alors beaucoup d'experts affirment que c'est un échec politique rare pour Netanyahou. Est-ce également votre avis ?
Oui, sans aucun doute. D'ailleurs, il n'y avait qu'à le voir hier, la tête qu'il faisait, je veux dire, il était effondré. Et puis, au dernier moment, ce qui montre à quel point la politique peut être cynique, Netanyahou a proposé aux travaillistes 3 ou 4 portefeuilles au gouvernement, y compris celui de la défense. C'est-à-dire à quel point il était aux abois. Et les travaillistes, le leader travailliste Gabay, était intéressé, mais le parti a refusé. Il a bien fait, parce qu'il n'y a aucune assurance que ce que dit aujourd'hui Netanyahou, il voudra et pourra l'appliquer. Tout le monde ment. Ça renforce dans l'opinion publique une méfiance envers les politiques, et ça, c'est dangereux.
L'écrivain Marius Schachtner joint à Jérusalem. Au moins 4 Afghans ont été tués et 4 soldats américains légèrement blessés aujourd'hui dans l'explosion d'une voiture piégée qui visait un convoi militaire étranger à Kaboul, selon des responsables. L'attaque a été revendiquée par les talibans et l'attentat survient au lendemain d'un autre attentat suicide. C'était hier à l'école militaire de Kaboul. Il a fait au moins 6 morts. Et puis le ministère iranien des Affaires étrangères a accusé aujourd'hui l'Arabie saoudite de s'aimer la division au Moyen-Orient, critiquant les tentatives du rival saoudien de mobiliser contre Téhéran. L'Arabie saoudite continue de s'aimer la division entre les pays musulmans et dans la région, ce qui est le souhait du régime sioniste. Israël a affirmé le porte-parole des affaires étrangères de l'Iran, Abbas Mousavi. Sport pour terminer, Ligue des Champions ce soir, après un bac aller riche en débat autour de l'arbitrage, place à l'acte 2 de la finale de la Ligue des Champions ce vendredi à Tunis entre l'Espérance sportive et le Wydad de Casablanca. Un bac nul suffirait aux hommes de Mouni Chabani. Jean-Roger Billon, le prochain journal c'est dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.